Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril. Radio.
Le commentaire de
Mathieu Boccoté. Dépensé, pas comme les autres.
Mathieu, est-ce que t'es bien assis?
Oui, ça m'arrive.
Ok,
en tout moins pour l'instant.
J'ai un scoop pour toi, puis tu vas tomber en bas de ta chaise. Alors, Justin Trudeau, c'est pas rien, là. C'est le premier ministre du Canada, a dit que le Québec, sa langue officielle, c'est le français. Justin l'a dit.
Wow. Non, mais il arrive en ce monde que des gens constatent que 2 plus 2 égale 4. C'est pas mal. C'est-à-dire, des décennies après la loi 22 de 1974, après la loi 101 de 1977, après des années de combat, pendant que son père s'y opposait, pendant que lui-même s'y opposait, et finalement, il y a une reconnaissance tardive de notre existence. C'est pas mal, mais c'est assez... Ce qui est amusant, en fait, premièrement, on nul besoin de sa permission pour exister. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai souvent pensé que le Canada nous combattrait ardemment jusqu'à ce qu'il ait l'impression de nous avoir vaincus. Et alors, il nous reconnaîtrait à la manière d'une minorité bibelot, à la manière d'une communauté décorative dans l'ensemble canadien. Lorsqu'il sera parvenu à en finir avec le peuple québécois, soudainement, il lui sera une place. C'est un peu ce qui s'est passé, soit dit en passant, avec les francophones à la grandeur du Canada. D'abord et avant tout, le Canada a tout fait pour les assimiler, les angliciser. Et une fois qu'il y est parvenu, il a offert généreusement le masque à oxygène pour leur dire « Tenez bon, nous avons besoin de vous dans le portrait ». Alors, il n'est pas encore parvenu à en finir avec le Québec, ça, on le sait, on est encore là. Mais manifestement, le sentiment qu'ont les fédéraux d'avoir vaincu le nationalisme québécois, d'avoir évacué la question de l'indépendance, d'être devant aujourd'hui un gouvernement nationaliste à Québec, mais qui accepte le cadre canadien, dont on peut se permettre des concessions symboliques de circonstances, parce que nous ne sommes plus menaçants dans leur esprit. Le redeviendrait-on menaçant dans leur esprit, que je ne suis pas certain que nous aurions droit à cette espèce de concession symbolique sans trop de portée politique.
Mais est-ce qu'on pourrait dire, là, si je disais, mettons, et tu sais que je n'aime pas Justin Trudeau, je ne le porte pas dans mon cœur, mais si je te disais que c'était quand même audacieux de sa part de dire ça, parce qu'il risque quand même de se mettre beaucoup d'anglophones du Canada anglais à dos, tu répondrais quoi?
Oui et non. C'est-à-dire qu'il a, effectivement, il va trouver son nouveau Clyde Wells, il va trouver son nouveau Elijah Harper, pour avoir des références qui datent de Meech. Donc, peut-être est-ce que c'est Mme Wilson-Raybould aujourd'hui, il y en aura d'autres. Mais en ce moment, le jeu politique n'est plus le même qu'autrefois. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la menace de la sécession, la menace de la séparation. On a l'impression que la question nationale se pose désormais dans l'espace canadien. Pour les fédéraux, c'est un peu ça. Je note que sur la question la plus sensible de la loi 21, qui est le grand geste d'affirmation politique du Québec ces 25 dernières années, soudainement, le désir de compréhension et de réconciliation est beaucoup moins avancé. Donc là, il y a aussi un fait central. C'est que depuis 25 ans, en fait, depuis le référendum, on a cherché à nous faire croire que le français était en bonne santé, était formidable, il était presque pétaradant, le français explosait au Québec, ça allait bien. Or, ce que l'on constate, et là, ceux qui suivaient ces questions-là avec un peu de sérieux depuis 25 ans savaient que la situation était en train de devenir désastreuse. Mais là, elle est à ce point désastreuse en ce moment. La dynamique d'anglicisation est tellement avancée que les fédéraux, et en fait tout le monde, est obligé de reconnaître ce qu'ils contestaient il y a encore un an, deux ans, trois ans. Une personne avec qui je débat régulièrement dans une émission disait, il y a pas deux ans, trois ans, le français va très bien, ça va très bien, ça se porte très bien. Et là, soudainement, oups, le réel frappe. Et lorsque le réel frappe à la porte, et là, c'est la situation. Donc, tous sont obligés de faire semblant de reconnaître au moins le réel pour pas être complètement décalés du débat public québécois, surtout qu'il y a des élections fédérales qui s'en viennent et que Trudeau veut pas avoir contre lui Legault. Mais dans les faits, si les fédéraux voulaient véritablement aider le fait français au Québec. Premièrement, moi, je leur demande une chose, c'est de pas s'en mêler. Autrement dit, assumer que la question linguistique appartient pleinement au gouvernement du Québec. Confier les pouvoirs véritablement en immigration au gouvernement du Québec. Accepter l'idée que désormais, eh bien, la loi fédérale sur les langues officielles est soumise au principe de la loi 101. Pas simplement accordée de manière un peu symbolique comme c'est le cas en ce moment. Accepter cette idée que les services fédéraux au Québec sont sont en français, sauf pour la minorité historique anglaise. Donc, il y aurait des choses à faire si les fédéraux voulaient moins nuire. Mais, cela dit, ce qui me frappe, c'est la capacité qu'ont les fédéraux en ce moment, puis bon, ce ne sont pas les seuls, à présenter comme une immense avancée, ce qui est une forme de reconnaissance de l'existence de la Lune et du Soleil, que 2 plus 2 égale 4, qu'après la pluie, il y a le beau temps. Bon, et là, ils sont capables de dire ça, puis on s'attend tellement à rien d'eux qu'on dit, waouh, ils vont loin. Mais bon, c'est effectivement le cul de jatte qui parvient à marcher, ça étonne, mais en dernière instance, on est quand même devant une proposition qui est assez limitée, qui est symbolique, qui a peu de portée politique.
Mathieu, transportons-nous sur la scène internationale. On sait que la guerre froide s'est terminée en 1989 avec la chute du mur. Tu trouves qu'il y a des nostalgiques de la guerre froide?
Oui, ça me frappe un peu dans le monde. Il y a la rencontre aujourd'hui, Poutine et Biden. Alors, là, qu'on se comprenne tout de suite, j'ai aucune sympathie pour Poutine ou quoi que ce soit. La question n'est pas là. La question n'est pas de savoir si on aime ou non ce qui se passe en Russie. La question est de savoir si on doit continuer de se représenter le monde comme une forme d'affrontement inévitable entre les États-Unis qui représenteraient le pays qui guide la liberté dans le monde, dans la puissance dominante du monde libre, et de l'autre côté, la Russie qui serait le grand ennemi, le grand méchant contre lequel on doit se braquer. Comme si fondamentalement on devait rejouer la guerre froide avec d'un côté les Américains, de l'autre les vilains popov. Or, me semble-t-il, le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui a fondamentalement changé. Nous évoluons dans un monde désormais multipolaire. Un monde multipolaire, c'est-à-dire que des puissances longtemps oubliées qui resurgissent, la Chine est la première d'entre elles, mais ce n'est pas la seule. Il y a l'Inde, évidemment, l'Amérique du Sud qui peu à peu prend forme politiquement. Il y a la question de la montée de l'islam, il y a des vagues migratoires qui déferlent sur l'Occident. Donc, on est dans un monde qui n'est plus celui de la guerre froide, et je trouve qu'il y a quelque chose de caricatural à s'imaginer que Poutine est l'héritier de Staline, au sens où il rêverait de faire défiler les tanks de l'armée russe, de l'armée rouge, autrement dit, à Berlin, à Paris. Si j'étais en Lettonie, si j'étais en Estonie, si j'étais en Lituanie, si j'étais en Ukraine, je m'inquiéterais avec raison des Russes, je m'en inquiéterais beaucoup. Mais d'un point de vue global, nous ne sommes plus dans une lutte à deux entre Washington et Moscou pour la domination du monde. Et quand on cherche à tout prix à présenter ça comme une espèce de lutte à deux dans les circonstances, une espèce de moment de vérité, j'ai l'impression qu'on est décalé.
Mais quand même, il veut ramener la grande Russie, là. Tu sais, il veut redonner aux Russes la fierté de l'époque où la Russie est un empire?
Ben alors, faut nuancer là-dedans. C'est-à-dire, s'il veut redonner... Si la Russie prétend être une forme d'empire régional qui prétend que sur son territoire, il y a une... elle veut exercer une influence dominante, il n'y a pas de doute là-dessus. On est en droit de s'en méfier, hein, je le dis aussi. Mais cela dit, je constate simplement que si la Russie veut faire cela, la Chine veut faire cela aussi. Et quant aux États-Unis, c'est surtout ça l'élément à travers ça. C'est vraiment, comme je dis, critiquer la Russie avec plaisir. Hein. Mais je trouve que les États-Unis se la donnent un peu trop facile comme puissance dominante du monde libre. Je veux dire, depuis, me semble-t-il, 2003, hein, depuis l'invasion de l'Irak, et depuis ce qui a suivi, les États-Unis, globalement, ont fait une politique internationale qui a été plus désastreuse qu'autre chose. En plus, autre exemple sur la question de l'OTAN, parce qu'on parle beaucoup du rôle de l'OTAN. Le monde a changé, on le voit à travers la question de la Turquie. Moi, ça me fascine. La Turquie, c'était un allié au temps de la lutte contre l'URSS. Très bien. Donc, la Turquie était dans l'OTAN. Aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre, on voit que la Turquie se définit souvent, surtout qu'elle se réislamise, Erdogan est là pour l'incarner, elle s'oppose de plus en plus à l'Europe, elle menace l'Europe, elle multiplie les menaces à l'endroit de l'Europe, elle cherche à humilier l'Europe. Est-ce que la Turquie est encore un allié, véritablement? Est-ce que c'est encore un allié? Ou est-ce que l'OTAN donne une impression d'allié? Les Américains et les Européens n'ont pas la même politique par rapport à la Chine, par rapport à l'Iran. Ils n'ont pas la même politique par rapport à la Russie même. Alors, les Européens eux-mêmes disent, on ne peut pas traiter la Russie comme si c'était comme au temps, justement, des Soviétiques. Encore une fois, je le dis, ça ne veut pas dire que les Russes n'ont pas des ambitions de puissance. Évidemment pas. Et puis, les Européens eux-mêmes se disent qu'ils doivent avoir une capacité de puissance pour être capables de tenir tête à la Russie. Mais tenir tête à la Russie d'un point de vue européen, ce n'est pas comme tenir tête à la Russie d'un point de vue américain néoconservateur obsédé par la guerre froide. Donc, voyant tout cela, je trouve que le récit qu'on nous fait de la politique internationale est en décalage d'une trentaine d'années, et on devrait avoir une conscience multipolaire minimale pour savoir dans quel monde on évolue, et surtout ne plus se sentir obligé de brandir le drapeau américain comme si c'était celui de la liberté.
Mais reste que Poutine est un brigand, là. Je veux dire, il fait enfermer ses opposants politiques, et il a fait tuer les journalistes qu'il critiquait, là.
Mais sans le moindre doute, c'est un brigand, c'est un c'est un régime à tentation autoritaire, plus qu'à tentation autoritaire. C'est un régime fort inquiétant. C'est un régime que je n'aime pas du tout. L'idée, oui, il y a quelquefois en Europe des gens qui trouvent que la Russie est inspirante. Je trouve qu'ils vivent dans un monde parallèle. Je vous dis un instant, on se calme. La Russie n'est pas inspirante. La Russie est inquiétante.
Mais
il y a
oui.
une différence entre considérer que la Russie est inquiétante et doit être critiquée, une chose, et de s'imaginer qu'on est dans un monde qui est commandé par l'affrontement entre Moscou et Washington. C'est autre chose. Pour moi, c'est la critique, elle est là. C'est qu'il faut sortir de cette idée du grand affrontement entre Moscou et Washington. Surtout quand, à notre époque, une puissance autrement plus inquiétante, me semble-t-il, c'est la Chine. La Chine émerge aujourd'hui. On voit ce qu'elle fait aux Ouïghours, par exemple. On est dans une politique vraiment qui est assez terrifiante. La politique qui est réservée aux Ouïghours en ce moment. La Chine, aujourd'hui, réinvente le totalitarisme de manière, ce qu'on pourrait dire, avec le système du crédit social et tout ça, ça en est assez terrifiant. Donc voyant ça, moi, je ne dis pas un instant qu'on se comprenne bien qu'il faut avoir quelque tendresse ou sympathie pour Poutine. Jamais. C'est pas ce que je dis. Je dis simplement que, gardons à l'esprit simplement que le monde n'est plus divisé comme au temps de la guerre froide. Sachons que les États-Unis ne sont plus aussi exemplaires qu'ils l'étaient autrefois. Sachons que des puissances autres émergent dans le monde et exigent qu'on raffine notre compréhension des relations internationales. Sachons que tous les Occidentaux ne sont pas obligés de s'aligner sur Washington si Washington dit quelque chose. Ayant tout cela à l'esprit, ça ne nous empêchera pas de nous dire amis les Américains, mais ça va nous éviter d'avoir l'impression qu'on a devant nous Brejnev ou Staline.
Et voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Mathieu. À demain.
Bye bye.
Salut.